Oui, deux questions rapides. À propos des parentés à plaisanterie, c'est peut-être tout à fait hors de propos ce que je vais dire, mais est-ce que, monsieur Amoir, on pourrait imaginer que par extension, les parentés à plaisanterie, comment dire, est une parenté justement avec le vivre ensemble? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de continuum qui pourrait s'établir au-delà des ethnies, au-delà des pays, pour en définitive aboutir à une vertu, comme vous disiez, qui serait celle du vivre ensemble généralisé? Une autre question très ponctuelle, c'est que vous avez dit que la charte de 1236, là, s'appliquait dans toute l'Afrique. Enfin bon, d'accord. Quelle Afrique exactement quand même? Est-ce que on la trouve respectée au Malawi, en Tanzanie, en Ouganda, ou bien est-ce que c'est plus particulier à l'Afrique de la CEDEAO, disons, et de la CEDEAC, c'est-à-dire l'Afrique, les ex-Afriques francophones principalement, mais il y avait aussi le Ghana et puis les Guinées, quoi. Merci.
Oui, c'est l'harmonie des peuples, la question du vivre ensemble de façon harmonieuse. Et je pense que ces pactes ont permis de stabiliser un certain nombre de peuples. On a eu des témoignages pendant la guerre qui, malheureusement, les canons n'ont pas de direction et donc on ne peut pas établir que, mais dans le passé, quand on. Dans certains témoignages à Boaké, où il y a eu ce grand phénomène, il s'est trouvé des personnes qui, étant en alliance, ont dû faire des chefs de guerre, qui ont dû faire libérer des personnes avec qui leur peuple était en alliance, parce que ces personnes ne sont pas autorisées à verser le sang de leurs alliés. C'est donc une dynamique de vivre ensemble, mais encore une fois, ce n'est pas ancré dans toutes les cultures. Comme je l'ai dit, dans le nord, dans certains pays du nord, le Mali, le Burkina, le Sénégal, c'est plus expressif, c'est mieux exploité que par exemple dans le sud forestier au niveau du Ghana et autre chose. Ça existe, mais de façon plus lâche, j'allais dire, plus simple. J'ai plus centré mon étude sur l'Afrique de l'Ouest et donc j'ai mis l'accent là-dessus. La Mauritanie et tout cela, vous trouverez ces manifestations certainement. Mais en descendant, par exemple, au Togo, vous avez avec le Togo, et là, c'est la prochaine folie qui m'anime, de pouvoir, à la faveur d'un autre colloque, festival, mettre en route une carte ouest-africaine des alliances interethniques, et alors postuler que la résolution des conflits en Afrique, les résolutions ne peuvent passer que par les détenteurs de ces connaissances, et donc les chefs coutumiers, les sachants, ou les savants de ces peuples-là. Donc je pense que si on arrive à associer les gouverneurs, les gouvernants modernes aux gouvernants anciens, donc aux chefs traditionnels, aux détenteurs de ces connaissances, si de surcroît on arrive à enseigner les aspects positifs de ces valeurs, non, la partie valeur et non pratique de ces découvertes, parce que c'est deux choses différentes. Les pratiques peuvent être tout à fait négatives, mais les valeurs sont les choses à promouvoir. Donc, si on arrive à faire valoir cela, alors il est certain qu'on pourra arriver à un vivre ensemble harmonieux et pacifique. Mais je vous le dis, le Malien qui sait, ou l'Ivoirien qui sait qu'il est attaché à tel peuple, il se garde d'aller d'outrepasser un certain nombre de comportements. Hein, le Malawi, ailleurs, je n'ai pas encore pu faire ce voyage. Je suis allé à Madagascar pour voir le château de la reine et m'inspirer de quelques réalités, mais les recherches n'ont pas été aussi approfondies qu'ici. Ici, on pourrait dire que le jeu entre Belges et Français relèverait un tout petit peu de ce type d'alliance.
Ce sera la plaisanterie. L'histoire belge. Bien, d'autres questions, peut-être? Oui. Voilà.
Oui, il était question d'Afrique subsaharienne. Ah bon? Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je ressens, ce que j'entends, me paraît en particulier dans dans votre conclusion. Ce que vous proposez me paraît tout à fait applicable à notre propre société. Et je me disais, est-ce que cette parole que vous nous apportez, c'est pas la parole perdue par notre propre société européenne et occidentale?
très bonne question.
Qu'est-ce donc être si ce n'est être de tout le temps, de tous les temps? L'humain, dans sa progression, me semble-t-il, reste attaché fondamentalement à ce qu'il est, originellement. Évidemment, les modernités, les évolutions des peuples vont faire en sorte que progressivement, on perd une certaine primitivité naïve à laquelle certains peuples africains restent encore attachés, certainement, cette primitivité naïve, j'allais dire. Et c'est peut-être de cela que jaillit une étude comme celle-là qui fait ressortir quelque chose d'originel vers lequel on devrait pouvoir aller, parce que l'humain, qu'est-ce donc l'humain si ce n'est par principe la quête du beau, d'un beau permanent? Donc je partage avec vous l'idée que sans doute avons-nous porté notre choix sur un espace géographique, mais qu'est-ce donc cet espace géographique si ce n'est le nouveau monde lui-même? Mais nous sommes à la recherche de nous, un nous perdu dans un océan, malheureusement, de guerre, de misère et d'incompréhension.
Je vous ai dit, c'est un poète.
Encore une question? Oui, d'accord. Oui, madame Cortès.
Je prends. Écoutez, puisqu'il n'y a pas de questions, on va aller boire un petit café pour marquer la pause. Je rappelle toutefois simplement que en t'écoutant, j'ai eu le sentiment d'écouter d'une certaine manière Gaston Bachelard, parce que lui aussi disait que la polémique est toujours possible, mais à condition qu'elle soit courtoise. Et tu viens de nous donner la démonstration qu'effectivement la polémique courtoise, c'est quelque chose qui vaut la peine. Merci.